Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a dans ta parole aujourd'hui. Je te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous, à ce que notre foi soit basée sur les Saintes Écritures, sur ta parole, qu'on puisse découvrir tous les beaux versets qu'on a dans ta parole pour nous parler, pour nous révéler ta pensée, qu'on puisse baser notre foi sur les choses vraies, les choses réelles, les choses permanentes, parce que ta parole demeure éternellement. Parle à nos cœurs, grave ces paroles-là dans notre esprit, dans notre cœur, pour qu'on puisse les avoir dans notre bouche, puis parler de toi à tout le monde. Je remets tout entre tes mains dans le nom de Jésus. Alléluia! On continue notre petite étude qui est une étude de premier pas. On va voir 10 leçons là-dessus sur des choses de base de notre foi chrétienne. Quand on parle de premier pas, c'est les choses de base qu'on tout chrétien devrait savoir en commençant. Ça serait même préférable, afin de savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage, ça serait préférable qu'on fasse ces cours-là avant d'être baptisé. Parce que là, en tant que Jésus, là, la parole de Dieu t'a répandu à flot par les disciples, puis Jésus a fait des miracles partout. Fait que quand les gens ont entendu parler de Jésus, il y a eu tellement de choses qui se disaient là-dessus. Il était déjà, avec le témoignage de Jean-Baptiste, puis Jésus, puis ses disciples, il était déjà préparé la venue du royaume des cieux, la repentance et la conversion pour entrer dans ce royaume-là. C'était déjà tout là dans la pensée. Mais nous autres, aujourd'hui, la majorité du monde ne savent rien de tout cela. Puis il y en a qui se font baptiser, puis ils n'ont même pas compris c'est quoi être chrétien. L'importance de la Bible, l'importance de qu'est-ce qui est Dieu, c'est quoi le salut. C'est quoi l'Église? Pourquoi aller à l'Église? C'est toutes des questions qu'on va répondre dans certains modules. Puis on a décidé de faire ça en groupe pour que tout le monde puisse l'avoir. Puis vous gardez ces feuilles-là. Pourquoi? Parce que toutes les réponses, pour répondre à vos mononcles, vos matantes, vos cousins, vos cousines, vos enfants, et ainsi de suite, pour répondre avec les versets, c'est écrit ça à telle place, ça à telle place. C'est des versets qui répondent aux questions les plus de base de la vie chrétienne. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est le chrétien et son Dieu. On est dans le deuxième module. Je vais juste lire un passage avant de rentrer dans le cours. Dans Jean 17, le verset 3, Jésus est en train de faire une prière avec son Père. Puis dans sa prière, il y a une vérité là-dedans puis que tout le monde doit saisir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, là, tu as le résumé du salut. Tout le message que les apôtres, les prophètes, puis Jésus lui-même a enseigné aux gens, il y a une vie éternelle. Puis cette vie éternelle est dans ce qu'ils connaissent, dans une relation personnelle, toi, là il s'adressait à Dieu le Père, le seul vrai Dieu, n'a pas 50 dieux, n'a rien qu'un seul Dieu, puis un seul que ce Dieu-là a envoyé, puis c'est Jésus-Christ. Il est important que les chrétiens connaissent par des passages la Bible. Qu'est-ce qui est ce seul vrai Dieu-là? Qu'est-ce que la Bible dit de ce Dieu-là? Il y a plein de passages qu'on va voir qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. C'est des versets qui vont vous être utiles pour pouvoir parler à ceux qui vous entourent. Parce qu'il y a bien des religions qui ne croient pas que Jésus est Dieu, mais on va continuer avec le cours, on va tout passer à travers de ça. Qui est le Dieu de la Bible? Il y a un seul livre sur cette terre qui nous a été donné par Dieu, qui nous révèle qui il est, d'où il vient, et ce qu'il fera dans la suite des temps. En consultant ce livre et en étudiant ses déclarations, nous découvrirons quel est le véritable Dieu. C'est quel livre ça, qui a toutes ces révélations-là? La Bible. On a vu la semaine passée dans le cours de la Bible quelle est l'importance de la Bible. Si vous n'avez pas suivi ce cours-là, allez sur l'Internet. Dans le site de l'Église, vous allez avoir la prêche, ou sur mon site, vous allez avoir l'étude et la prêche. Allez faire ce cours-là, ça nous parle de l'importance de la Bible dans la vie du croyant. Les premières questions qui sont importantes de savoir, c'est qui est Dieu? Est-ce que la Bible nous parle de Dieu? Que nous révèle-t-elle sur lui? C'est à ces questions que nous répondons. Parce que, savez-vous qu'il y a des centaines puis des milliers de religions sur la terre? puis des centaines de dieux. Tu regardes la mythologie grecque, Zeus, puis tous les... Te mettez-en, je les connais pas, puis je veux pas les connaître. Mais il y en a plein de noms que les hommes sont faits des dieux avec ça. Les hommes ont décidé de se créer des légendes, de se créer des mythes, de se créer des fables, de se créer des religions en prenant un dieu à leur image, selon leur idée, selon leur pensée, leur conception. Ils se disent, ah ben moi j'imagine Dieu qui devrait être, cet arbre-là c'est mon Dieu. Là ils vont dire, Dieu est dans la nature, cet arbre-là c'est Dieu. Là ils vont se mettre à prier un arbre, prier la lune, prier les étoiles, prier le soleil, prier n'importe quoi qui est autour. Mais est-ce que tous les dieux reviennent à la même chose? C'est important de le savoir. Est-ce que devant Dieu... N'importe quel nom, tu t'adresses à Dieu, puis est-ce que c'est tous le même Dieu? Je vous le dis tout de suite, non. Dans le cours qu'on va voir, c'est un cours qui est rapetissé pour que ça dure dans une période, mais j'en ai un cours qui est plus long, puis il y a toutes d'autres sortes de versets qui expliquent des versets textuels dans la Bible qui dit, il n'y en a pas d'autre Dieu que Dieu, le Dieu qu'on connaît. Puis Jésus, dans ce verset-là, que c'est comme un résumé, là, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus nous dit qu'il n'y en a rien qu'un Dieu. Dieu le Père. On va voir que dans Dieu le Père, ils sont au pluriel, qu'il y en a trois qui en forment un qu'un seul Dieu. On va continuer avec l'étude. Que des gens le nomment comme qu'ils veulent. C'est les noms que la Bible l'appelle. Ce qui fait une différence entre les gens de leur propre idée ont inventé des idées, tandis que nous autres, on n'invente rien, on prend ce qui est déjà révélé. Dans le cours, la semaine passée, on a vu que toute l'Écriture était inspirée de Dieu, poussée par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. C'est la révélation de Dieu aux hommes, puis cette parole-là demeure éternellement, malgré que tout va disparaître, ça demeure éternellement, puis c'est ça qui va juger le monde à la fin. Puis, pour le chrétien, la parole de Dieu, c'est la source pour comprendre le salut, comprendre le chemin, comprendre les révélations de Dieu. C'est un trésor qu'on découvre toutes sortes de choses. Puis, c'est la base de notre foi. On ne sort rien d'autre que ce qui est écrit. Puis, quand vous écoutez les prêches, là, tous les semaines, là, bien, vous devez vérifier si c'est vraiment écrit dans la Bible afin de mettre votre foi dans les versets de la parole de Dieu et non pas juste dans les discours des prédicateurs. Parce qu'il y en a beaucoup de faux prophètes dans le monde qui enseignent toutes sortes de menteries. Puis est-ce qu'on est prêt à mettre notre éternité dans les mains de n'importe qui en croyant aveuglément le premier venu? Non. Nous, on a mis notre foi dans le Dieu vrai, le seul vrai Dieu qui s'est révélé. Dans un des versets à la semaine passée, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent... » Non, c'est cette semaine. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. » On a à apprendre à le connaître, ce Dieu-là. Où je vais apprendre à le connaître? Dans sa parole. C'est révélé. Là, en prenant ce que la Bible nous dit de lui, là, on est sûr que c'est vrai. Le reste, on oublie ça. C'est pas écrit là, on n'en veut pas. Le premier nom qu'on voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, 19, Jésus a envoyé ses disciples, baptisés, puis formés d'autres disciples, puis il leur a dit une chose, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on voit dans ce verset-là que les trois noms, c'était la base de notre foi. Les trois noms qu'on devait garder pour être baptisés. Puis tout l'enseignement, comme ici les gens se faisaient ordonner au ministère, ils disent tout haut dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les gens se font baptiser, les gens que quand tu expliques le salut, tu vas revenir à parler du Père, à parler du Fils, puis à parler du Saint-Esprit. Puis les trois sont importants qu'on les enlève pas, parce qu'on va voir plus tard que les trois sont le seul Dieu. Puis on va voir des versets qui nous parlent de ça pour qu'on puisse... être capable de répondre à d'autres. Parce que si tu es témoin de Jéhovah, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc, ils enlèveraient le mot Jésus dans le baptême. Il n'est pas Dieu. Puis, il y en a d'autres qui ne croient pas que le Saint-Esprit, il est Dieu. Ils pensent que c'est juste l'Esprit de Dieu en voulant dire que c'est Dieu le Père qui est là. On va voir des passages qui nous parlent que les trois se manifestent en même temps, séparément, comme quoi que c'est trois êtres différents, distincts, mais formant un seul Dieu. Bon, la Bible nous le révèle en trois personnes. Mais quand que je dis personne, là, c'est pas personne humaine. Personne dans le pronom personnel, je. Il y a trois je en un seul Dieu. Dieu le Père peut dire je suis. Jésus peut dire je suis. Et le Saint-Esprit peut dire je suis. Les trois, c'est des êtres distincts. Puis on va voir des passages qui nous parlent de ça. Premièrement, on va regarder qu'il y en a un qui s'appelle Dieu le Père, dans Colossiens 1-3. Qu'est-ce qu'on découvre dans Colossiens 1-3?
Peut-être pas en quel
mot doit-on baptiser les gens? Oui, j'ai dit, c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pensais que vous l'aviez sorti d'avance, là. C'était dans Matthieu 28-19. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans les trois noms qui baptisaient les gens. On veut le connaître, le seul vrai Dieu. Ben, Colossiens 1-3, ça commence. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. On voit dans ce passage-là qu'il y a quelqu'un, un titre honorifique, son nom, c'est Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Puis dans d'autres versets, on va en avoir quelques-uns, que tout provient du Père. Tout sort du Père. C'est le Père qui décide de faire tout selon sa volonté. C'est le Père qui a décidé d'envoyer son Fils. Il y a comme un consensus qui se fait dans le cœur, dans la pensée de Dieu. C'est Dieu le Père qui sera la source de tout. Jésus provient du Père, le Saint-Esprit provient du Père, puis c'est du Père que sont toutes choses. Fait que Dieu le Père est mentionné dans Colossiens 1-3, 1 Corinthiens 8-6. Paul est encore en train d'enseigner. On va rester les quatre premiers versets, là, ça va être juste pour mentionner quelques passages qui parlent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui est le Père. Dans le sens du mot Père, ça veut dire celui qui a engendré. Un père, c'est quelqu'un qui engendre un fils. Tu tombes père quand t'es engendré. Tu peux pas te faire appeler père si t'as pas engendré. Mais Dieu le Père, on va le voir dans d'autres versets. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dans ce verset-là, il fait deux distinctions. Dieu le Père puis Jésus-Christ. Il dit, Dieu le Père, c'est de lui que vient toute chose. C'est lui qui a engendré, qui a créé toute chose. Puis Jésus-Christ, ça dit, par qui sont toutes choses? C'est par la parole prononcée, le commandement prononcé par la parole, Jésus, que les choses se sont accomplies. Tout vient du Père, mais c'était confessé par le Fils. Les deux avaient un rôle bien distinct, mais en même temps, c'est un seul rôle qu'un seul Dieu. Dans ce verset-là, on voit qu'il n'y en a qu'un seul Dieu, le Père. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rejeté le Saint-Esprit ni Jésus comme étant Dieu là, dans ce verset-là. C'est juste qu'on va faire des distinctions qui ont chacun un rôle séparé. Mais qu'il est dans la Bible, on trouve des versets pour les trois qui sont Dieu. 2 Thessaloniciens 2:16, ça nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est comme s'il est en train de nous dire, on n'est qu'un seul Dieu qui est notre Père. Ça veut dire que Dieu a décidé d'adopter une famille. On ne parle pas des gens non sauvés, il est en train de s'adresser à des chrétiens. Dieu, il est le Père, puis il a engendré une famille. Puis de quelle façon qu'il l'a engendré? Ça dit, il nous a aimés, puis il a donné par sa grâce tout ce qui s'apprenait pour qu'on puisse le devenir. Jean 3:16, c'est le résumé de tout ça. Dieu a aimé, Dieu le Père, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que si ça a été décidé que le Fils viendra en forme humaine, c'est le Père qui l'a décidé. Dans ce verset-là. Il a décidé d'envoyer son Fils. Un dernier passage pour nous parler de Dieu le Père, dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Ça, je vais donner quelques versets, mais il y en a plein de versets qui mentionnent qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Père, puis que c'est lui qui décide, c'est lui qui a envoyé le Fils, c'est lui qui peut même aplanir notre route, qui peut ouvrir des portes, qui va décider de changer le cours de notre existence pour qu'on puisse accomplir sa volonté. C'est lui qu'on doit prier. Si on étudierait plein d'autres versets, quand on s'adresse dans une prière, on s'adresse au Père. Pareil comme dans Jean 17, Jésus priait son Père, puis il l'appelait Père. En Jean 17, ça disait « Père, l'heure est venue ». Là, il s'adresse au Père. Quand il enseignait la prière du Notre Père, c'était « Notre Père qui est aux cieux ». Quand on adresse une prière à Dieu, on l'adresse au Père. Puis on la demande dans le nom de Jésus. Parce que tout ce qu'on a reçu en tant que chrétien, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, les mérites de Jésus-Christ. Fait que si vous avez des questions à répondre à quelqu'un qui vous demande « Ouais, mais Dieu, qu'est-ce qui est? » Mais vous dites « Il y a trois personnes. » Premièrement, il y a Dieu le Père. Vous pouvez aller montrer quelques versets. Là, l'autre partie, c'est rare que ceux, premièrement, dans cette partie-là, qui vont s'ostiner. Tout le monde reconnaît qu'il y a un Dieu, on l'appelle le Père. C'est le Créateur de tout le monde, ça, pas de problème. Là, on tombe dans la section « Jésus ». Jésus est aussi Dieu. C'est là qu'on va tomber en conflit avec des religions. Exemple, témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ont modifié le Bible pour modifier des passages pour nous amener à ne pas croire que Jésus est Dieu, mais ils admettent que c'est le Fils de Dieu, ils admettent que c'est un prophète. Mais est-ce que la Bible nous dit que Jésus est Dieu? On va vous répondre tout de suite, oui. Puis même avec les versets que je vais vous donner, là, vous allez lire dans la Bible de témoins de Jéhovah, vous allez prendre leur Bible avec ces versets-là, puis vous allez être capable de leur prouver dans leur Bible que Jésus est Dieu.
C'est vrai, parce que j'ai fait affaire avec les témoins de Jéhovah. Puis même, ils vont changer le nom de Dieu à quelques places aussi dans leur...
Oui. Oui. Puis moi, je crois que la vie éternelle, or, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Il faut apprendre à connaître celui qui nous envoie, que le Père a envoyé, c'est Jésus. 1 Jean 5,20. Que nous dit 1 Jean 5,20? Oui. Il y a plein de versets là-dedans qui sont très clairs, que ça adresse au Fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'était dans la croyance des premiers disciples sur la terre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans ce verset-là, c'est clair. Dieu le Père, il nous a envoyé son Fils, il est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître c'est qui le véritable. Puis là, ça dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, vous êtes capable de lui prouver la même affaire. Ils n'ont pas modifié ce verset-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas modifié. Vous allez voir, il y en a un d'entre autres dans la gang qui est vraiment... C'est un des meilleurs. Hébreux 1, 8, 9, qui veut nous parler encore que Jésus est Dieu. Mais il a dit au Fils... Ça, c'est le Père qui a dit au Fils. Si tu vois le début avant, c'est le Père qui est en train de parler au Fils. Mais il a dit au Fils... Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père appelle Jésus, le Fils, puis il dit que son trône, ô Dieu, le Dieu, le Père, il appelle Jésus Dieu. Il est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu te oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dans ce verset-là, on voit que Dieu le Père appelle Jésus Dieu, puis il dit « Ton Dieu t'a oint ». Dieu le Père a oint Jésus qui est Dieu aussi.
Il est éternel.
Puis qui est éternel, puis son règne n'aura jamais de fin. Jésus, le Fils, il est appelé aussi le Fils de Dieu dans d'autres passages. Puis pour vous aider à faire la différence, pourquoi qu'on l'appelle Fils de Dieu à une place, puis pourquoi qu'on l'appelle Dieu à l'autre place. Mais bien que Jésus existait en forme de Dieu avant de venir sur la terre, il a accepté de paraître comme un simple homme. Il y a plein d'autres enseignements qu'on a déjà parlé, qui est venu du ciel, Jésus. Ça prenait quelqu'un qui vienne d'en haut sur la terre. Quand il est venu, Jésus, il est venu au monde dans une femme. C'est qui le Père qui a engendré Jésus dans Marie? Le Saint-Esprit. Dieu a touché Marie pour qu'elle tombe enceinte. Donc, qui a engendré Jésus? C'est le Père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. On va le voir dans d'autres passages que le Saint-Esprit est Dieu, qui est appelé Dieu. Le Saint-Esprit, il a engendré Jésus dans Marie. C'est pas Marie qui a le mérite d'avoir mis Jésus au monde. C'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Donc, ça nous montre que Jésus, en même temps qu'il était Dieu, parce qu'il existait en forme de Dieu avant, mais il a fallu qu'il soit engendré pour devenir un simple homme. C'est pour ça qu'il est appelé le Fils de Dieu. Et nos places vont être appelées le Fils de l'homme, parce qu'il est sorti de Marie aussi. Il est appelé le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, mais avant tout ça, il était Dieu. Voyez-vous que c'est tout dépendant du verset dans ce qu'on veut parler. Tu peux l'appeler le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, tu peux l'appeler Dieu, puis c'est biblique. Tout dépendant de ce que tu parles. Jean 1, 2, c'est un autre verset qu'on sait souvent pour prouver que Jésus est Dieu. Jean 1, 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Là, il nous parle de la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Ça nous dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis elle était au commencement avec Dieu. Ça dit, toutes choses ont été faites par elle, si on continuera à aller. La parole a créé toutes choses en étant dans la position Dieu, avec Dieu le Père. Verset 14 du même texte, ça nous dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'était qui ça, la parole qui a été faite chair? Jésus. Dans ces deux passages-là, on peut démontrer à n'importe qui de bien intentionné, on peut le démontrer que Jésus est la parole, puis il était éternel, il était au commencement avec Dieu, avant toute chose, puis toutes choses ont été créées par lui. Tout ce qui provient du monde invisible comme du monde visible a été créé par Jésus, qui était au commencement de toute éternité, at the beginning, à la Genèse. je parle en anglais. Voyez-vous que la parole qui était là, puis qui a créé toutes choses, puis qui était Dieu, elle s'est faite chair, puis ça, c'est Jésus. Philippiens 2, 5, 6. Ça, je viens juste de le mentionner, ce passage-là, juste avant. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. » Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous explique qu'on doit être comme lui. Jésus, même si avant, il existait en forme de Dieu. Il était Dieu, Jésus. Il existait en forme de Dieu. Quand il était humain, il n'a pas essayé d'être égal avec Dieu, puis de s'enfler, puis de se penser, puis de se montrer, puis de... Non, il s'est dépouillé lui-même comme un simple serviteur, puis est venu comme un simple homme, puis s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Mais Jésus, existant en forme de Dieu, la Bible déclare clairement que Jésus est encore, était dans la forme de Dieu, malgré qu'il est en forme humaine en même temps. Jean 20, 28. Ça, c'est après la résurrection. quand Jésus est mort et ressuscité. Là, il y a des disciples qui ont dit à des disciples, Jésus est ressuscité. Mon Thomas, il lui était pas là, il l'a pas vu, il dit, hein, moi je crée pas ça. Il dit, si je mets pas mon doigt dans ses trous de sa main, puis si je mets pas ma main dans son trou de côté, parce qu'il y avait un trou percé par la lance, il dit, je croirai pas. Jésus est apparu dans la soirée, là, devant toute la gang, puis il dit, viens Thomas, viens mettre ton doigt dans mon trou. Ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que Thomas a répondu? Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. La Bible est en train de déclarer que les apôtres croyaient que Jésus était Dieu.
Et.
Jésus est Seigneur, Jésus est aussi Dieu. Il donnait les deux types. T'es mon Seigneur et mon Dieu. Okay, okay. Là, en signe d'acceptation et d'obéissance, il était prêt à s'engager, à croire, à pas être incrédule. Puis là, ça a sûrement fait de lui une personne qui avait le feu pour déclarer que Jésus est Dieu, puis qu'il est ressuscité, puis en a eu la preuve devant ses yeux. Jésus a répondu tout de suite après, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, mais c'est là que ça a été écrit. Moi, j'ai pas vu Jésus m'apparaître personnellement, mais je crois que Jésus est Dieu, puis tout ça parce que je crois aux écrits qui est écrit là. Puis j'en ai eu des preuves par la suite que Dieu se révèle à ses disciples pour augmenter notre foi. De toutes sortes de façons. Oui. Un autre passage dans l'Ancien Testament qui parlerait qu'un fils nous viendrait et qu'il serait appelé Dieu. Isaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est une prophétie qui annonçait la venue de Jésus et son règne. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Voyez les noms qu'on va appeler Jésus. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, puis Prince de la paix. Wow, ça c'est des beaux titres. Puis il mérite d'être appelé comme ça. Dans tous nos chants qu'on chante, on l'appelle de ces noms-là, puis on le célèbre le dimanche, des chants qui nous parlent de ça. Le prochain, là, le verset dans Isaïe, c'est dans l'Ancien Testament, il y avait une prophétie sur Jean-Baptiste. Ça en est un puissant pour convaincre les témoins de Jéhovah. Les deux bras le tombent à terre quand ils voient ça. C'est pas des farces. Il y a un verset qui prophétise la venue de Jean-Baptiste, puis on voit dans Matthieu l'accomplissement. On va voir que ça nous donne comme enseignement. Dans Isaïe 40, au verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. » Ça, c'était la prophétie de l'Ancien Testament. Puis ça disait, « Préparez le chemin, dans la Bible de Témoins de Jéhovah, préparez le chemin de Jéhovah, aplanissez ses sentiers. » Là, tu revois l'accomplissement dans Matthieu, c'est Jean qui est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le verset qu'on vient juste de lire, dans Isaïe, lorsqu'il dit, c'était la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste était l'accomplissement de la prophétie qui disait, aplanissez le sentier de Jéhovah. C'est qui est venu à la suite de la prédication de Jean-Baptiste? C'est Jésus! Jésus, par ces deux versets-là, ça nous démontre que Jésus est Yahvé, le Créateur de toutes choses. Puis il y avait un messager qui se renvoyait au-devant de lui pour préparer le chemin. Ce messager-là, ça s'est accompli quand Jean-Baptiste est venu, puis il a commencé à prêcher. Puis là, après ça, quand il en a eu la preuve, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était l'agneau, c'était Yahvé. Que les témoins de Jéhovah, ils ont changé le mot Yahvé dans la Bible par Jéhovah. Jéhovah, ça n'existe pas. Ils disent que, dans leur doctrine, ils disent que faut que tu t'attaches au vrai nom, puis ainsi de suite. Mais ils prennent le nom Jéhovah pour dire que c'est le vrai nom. Le mot Jéhovah ne peut pas se prononcer dans l'original en hébreu. Ils ne prononcent pas de J en hébreu. C'est Yé. Yahvé ou Jéhovah, ça sera Yeshua, mais il n'y a pas de J. Fait qu'ils sont dans le champ, ils veulent nous approcher du nom, mais ils font encore un mélange en prenant les quatre tétagrammes, puis ils ont rajouté des lettres au mélange de ça pour faire le mot Jéhovah en disant que c'est le vrai nom. C'est pas le vrai nom. C'est pas le nom qu'il faut s'attacher. Le vrai nom de connaître Dieu le Père, Jésus, comment est-ce qu'il l'appelait son Père? Il l'appelait le Père. C'est ça le vrai nom que Jésus a dit d'appeler son Père, c'est pas... Abba. Abba, ça veut dire Père. Le mot Abba. On appelle Dieu le Père. Puis c'est correct. Dieu accepte ce nom-là. Mais Jésus est aussi le Père. Il y a d'autres passages qui le disent. Mais je les ai pas toutes mis parce qu'il y en avait trop. Jean 14, 8. On va le voir dans ce passage-là. Jésus a un entretien avec Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous puis tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus est en train d'expliquer à Philippe, cherche le Père, tu veux voir le Père. Comment tu dis ça? Où ce qui est le Père, montre-nous le Père, il dit, je suis la révélation du Père. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Jésus est en train de se déclarer dans ces passages-là que Jésus était le Père créateur de toutes choses, qui était là à l'origine, qui était là au commencement. Tiens, on mène à cela. Moi, ça m'excite de lire ces versets-là. Moi, j'aime ça parce que c'est des choses profondes dans des versets qu'on lit tout le temps, puis ça nous donne des enseignements pour répondre aux autres, puis leur dire « Jésus est Dieu, voilà pourquoi. » Matthieu 1, 23, qu'est-ce que ça nous dit? « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On a un autre passage que la Bible déclare que Jésus est Dieu. Ouais. Jean 16, 28. Jésus dit, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » De où est-ce que Jésus est sorti? Jésus est sorti du Père. Ça veut dire que Dieu le Père, Jésus est sorti de là. Il était qui? Il était Dieu le Père. C'est juste la façon qu'on l'exprime en français, ça a l'air bien compliqué. Il y a un seul Dieu. Mais dans ce Dieu-là, il y a plusieurs êtres. Des « je ». Il y avait Dieu le Père qui était « je ». Il y a Jésus qui pouvait dire qu'il était « je ». Puis il y a le Saint-Esprit qui peut dire qu'il est « je ». Puis les trois forment un seul Dieu. Ça, c'est des versets qui nous les montrent. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Bon, on va lire quelques passages rapidement pour pouvoir passer à travers de la matière aujourd'hui. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens ont des visions, des songes. Dieu qui parle par la prophétie, dit, je répandrai de mon esprit. Dieu lui-même, c'est comme répandu lui-même à travers les disciples. Chaque disciple a reçu une portion de ce Dieu-là. C'est pas que nous autres, on est Dieu dans le sens qu'on parce qu'il a pensé du Nouvel Âge, ça dit que tous les hommes sur la terre sont Dieu, puis qu'on va tous mourir, puis on va se regrouper pour former un seul Dieu. C'est une fausse doctrine. C'est le contraire. Dieu est Dieu. De toute éternité était Dieu avant, puis toute chose provient de lui, il a créé toute chose, puis les humains sont humains, puis il n'y a rien d'autre qu'humain. Mais ils sont devenus au monde en forme humaine, puis on peut être participant de la nature de Dieu. On peut recevoir une part de la présence de Dieu dans notre être, puis c'est répandu à travers de son esprit, le Saint-Esprit. On va voir d'autres passages, ça va nous aider à faire l'éclaircissement. 1 Corinthiens 2:12, pour nous démontrer que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Que le Saint-Esprit, là, on va voir qu'il est Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça, c'est 1 Corinthiens 2:12. Quand tu te convertis à Jésus, tu nais de nouveau. Tu reçois quoi? Tu reçois le Saint-Esprit. Puis c'est pas l'esprit qui est dans ce monde, l'esprit du diable et ses démons que tu reçois. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin qu'on connaisse les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce. Quand tu nais de nouveau, tu reçois l'esprit qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il vient, comme Jésus a dit, je viens du Père, mais le Saint-Esprit aussi vient du Père. Comprenez-vous? Oui.
Juste quelque chose, parce que tu es dans un contexte d'enseignement pour le baptême.
Oui.
Moi, l'éducation. Tu connais le verset, c'est Jean 14, 17 à 20. Quand tu dis, Jésus, moi, je vais venir en vous, le Saint-Esprit sera en vous,
oui.
Je suis dans mon Père, je sais pas.
Oui.
Oui. Jean 14, verset 17 à 20. Ben, j'ai vérifié, tu ne l'as pas mis.
Non, parce qu'il y a la Torah, j'ai été obligé d'en couper plusieurs. Mais on peut aller le lire si ça aide le monde à comprendre l'idée.
Jean 14, verset 17 à 20.
Là, Jésus qui parle à ses disciples, au verset 16. Et moi, je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur, ça c'est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. C'est là que ça nous dit, c'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, là, c'est l'Esprit de vérité. Jésus a prié le Père pour que le Père le donne. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que Jésus a prié son Père d'envoyer le Consolateur. C'est l'Esprit de Dieu qui est sorti du Père et qui est rentré dans chacun de nous quand on s'est converti. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est de repartir à zéro. T'es pardonné, mais tu reçois le Saint-Esprit. C'est une naissance du Saint-Esprit. Tu nais de nouveau. Tu as un nouveau départ qui commence, mais tu es en contact avec l'Esprit que tu as reçu à ta conversion. C'est l'Esprit de Dieu, puis il va demeurer éternellement avec vous, puis en nous, puis il sera en nous. C'est lui qui va nous enseigner toute chose, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, c'est lui qui va manifester les dons spirituels, c'est lui qui va nous révéler les choses qu'on doit connaître, c'est ça qui nous est écrit, afin que vous connaissiez ce qui nous a été donné du Père, on a besoin du Saint-Esprit. 19 et 20, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Dans ce passage-là, ça dit que Jésus y est dans le Père, puis Jésus est en nous. Puis Jésus dit, je vais prier le Père qui vous donne son Saint-Esprit. Quand vous allez le recevoir, vous allez recevoir le Père, puis vous allez me recevoir en même temps. Dans le Dieu, le seul et unique Dieu, il s'appelle Père, Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit, les trois sont un seul Dieu. Puis quand tu en reçois un, tu reçois toi et toi. Il se défend pas. Tu peux pas dire j'ai reçu le Saint-Esprit sans passer par la repentance par Jésus, parce que nul ne peut aller au Père que par moi. Faut que tu passes par Jésus pour aller au Père. C'est là que le Père donne le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père, tu reçois Jésus, ben Jésus dit, je vais être en vous, puis le Saint-Esprit en même temps. C'est dur à comprendre pour notre cerveau humain. Ça crée bien des problèmes dans la société parce qu'il y a eu des divisions dans des religions à cause de ça. Mais ça se comprend avec la méditation. Il faut réfléchir sur ces versets-là. Écrivez-les pour le rajouter dans votre liste, là, ce verset-là. Jean 14, 17. Parce que si vous avez à parler du Saint-Esprit à quelqu'un, mais le Saint-Esprit vient du Père, puis c'est Jésus qui a prié pour qu'on le reçoive, puis ce Saint-Esprit-là demeure éternellement avec nous, puis ça dit que Jésus est en nous, puis ça dit que le Père est en nous, puis ça dit que le Saint-Esprit, on l'a reçu. Fait qu'on reçoit tout en recevant le Saint-Esprit. Il y a un autre verset qui est semblable dans Jean 15, 26. Il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit qu'on reçoit à notre conversion, il va rendre témoignage de Jésus. C'est pour ça que toute notre prédication, c'est toujours basé majoritairement à parler de Jésus. Parler de Christ crucifié. Parce que la job du Saint-Esprit, c'est de vouloir révéler Jésus. La conviction qu'il veut faire dans le monde, c'est amener tout le monde à passer par Jésus qui va nous faire accéder au Père. On ne peut pas tasser Jésus puis dire « je veux le Père sans passer par Jésus ». Non, ça ne marche pas de même parce que le Saint-Esprit veut t'amener à parler de Jésus pour que tu passes par la repentance puis de recevoir le pardon qui est en Jésus avant de recevoir le Père. Tu ne peux pas recevoir le Père sans avoir passé par la repentance. Oui, dans Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Faut que tu passes par Jésus pour avoir le Père, mais quand tu reçois le Père, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu reçois Jésus. Tu reçois tout en passant par Jésus. Puis la job du Saint-Esprit, quand il va venir, c'est de nous rendre témoignage de Jésus. Le focus, c'est Christ et Christ crucifié. Acte 5, 3. On voit que dans Acte 5, 3, un autre petit passage vite qui nous dit que ça nous parle que le Saint-Esprit était là répandu par dans l'Église. Ça dit, Pierre, il dit à Ananias, Ananias venait de compter une menterie à Pierre puis à l'Église. Puis là, Pierre répondit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été à pas vendu. » Bon, là, il dit au verset 20, à la fin, « Il ne sait pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Vous voyez, il est en train de dire, « Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? » Puis à la fin du verset 20, il dit, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Si tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu. Tu comptes? Puis le peuple de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Fait qu'en chacun de nous qui sommes convertis, on a l'Esprit-Saint, on a Jésus, puis on a Dieu. Si je compte une menterie, je la compte pas qu'aux hommes, je la compte à l'Esprit. Je compte une menterie à Dieu. C'est ce qui s'est passé, puis il y a eu des conséquences. Mais tout ça, ce passage-là, c'est pour démontrer qu'il y a plein d'endroits qui parlent, qu'il y en a un qui s'appelle Dieu le Père, l'un qui c'est Jésus qui est Dieu, puis que le Saint-Esprit aussi qui est Dieu. Prochain texte, on va voir que les trois sont mentionnés dans un seul passage. C'est ça qu'on a vu au début, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nomme les trois, mais il y a d'autres passages qui nomment les trois dans le même passage. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, on l'a lu tantôt, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Là, il est écrit parce que les trois sont mentionnés dans le même passage. C'est C'est l'Esprit qui vient du Père. Il l'appelle l'Esprit de vérité. Puis il dit, il va rendre témoignage de moi. Les trois parlent, sont mentionnés dans le même passage. Le Père, l'Esprit, puis Jésus. 1 Pierre 1, 2. Bon. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, ça c'est nous autres, là, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On voit dans ce passage-là les trois. La préscience de Dieu qui a réfléchi au plan de rédemption. La préscience de Dieu, c'est que Dieu a pensé, Dieu le Père a pensé d'avance au plan à ce qu'on participe à une sanctification qui est produite par le Saint-Esprit, puis qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus. On voit les trois qui sont mentionnés, puis ils ont comme un rôle différent dans ce passage-là. Il y en a un que Dieu le Père a réfléchi à tout dans sa préscience, il a réfléchi au plan. Jésus a versé son sang pour l'aspersion, puis le Saint-Esprit nous sanctifie. Ils ont tous des jobs séparés, mais les trois sont un seul Dieu. Un autre passage dans Matthieu qui nous parle des trois en même temps, dans le même passage, puis celui-là est encore plus distinct, là, qu'on voit vraiment les trois qui ont un rôle séparé en même temps. C'est Jésus quand il s'est fait baptiser. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Fait qu'on voit que Jésus était là dans ce passage-là. Et voici les cieux s'ouvrir, puis il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Fait que le Saint-Esprit est venu comme une colombe, c'est un pigeon. Il est venu comme un pigeon se poser sur Jésus pendant que Jésus est encore dans l'eau, là. Il sort de l'eau. Le Saint-Esprit vient. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père a parlé du ciel en même temps. Dieu le Père est encore dans le ciel. Jésus est sorti de l'eau, puis le Saint-Esprit était comme un seul oiseau. Les trois se manifestaient dans la même scène, comme trois êtres séparés, mais en étant qu'un seul Dieu. Parce que juste la théorie, c'est quelque chose, mais quand tu le vois d'un exemple pratique comme ça, ça manque au plus l'idée que les trois peuvent être séparés à trois endroits séparément, puis que le Père est là, le Saint-Esprit est là, puis Jésus est là. Bien qu'ils sont Dieu, tous et trois, ils pouvaient être à trois endroits distincts. Les trois pouvaient parler, les trois pouvaient dire « je suis là ». Ce sont trois qui forment un seul Dieu. Hein? Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, c'est l'Église catholique qui l'a inventé pour désigner cet état-là. Une tri-unité serait plus le sens. Que Trinité, c'est comme un mot qu'ils ont composé, mais qui voudrait dire une tri-unité. Ils sont trois pour former un seul Dieu. Parce qu'il n'y en a qu'un seul Dieu, mais ils sont trois dedans. Hein? Comme un œuf. Il y a la coquille, il y a le jaune puis le blanc, mais ça forme un œuf. Ils ont chacun le goût, ils ont chacun le... Mais, dans un œuf... Non, c'est ça. Ils ont toutes des actions différentes. Ils ont toutes des actions différentes. Ou une nature, ou une... Mais un œuf, c'est pas encore l'exemple parfait, puis je vais vous dire pourquoi. Ça forme un seul œuf, mais le jaune n'est pas blanc, puis la coquille n'est pas jaune, puis la coquille n'est pas blanc, tandis que Dieu est parfaitement pareil, dans les mêmes attributs. Les trois sont éternels, les trois sont tout-puissants, les trois sont omniprésents, ça veut dire partout en même temps. Les trois sont omniscients, les trois connaissent toutes choses. C'est vrai que pour un temps, Jésus, il savait pas toute chose, mais ça, c'est juste dans le temps de 33 ans qu'il était séparé de son Père. Parce que quand il est ressuscité, après ça, il dit « tout pouvoir m'a été remis ». Il a réobtenu la position qu'il avait auprès du Père avant qu'il devienne ici. Il est retourné reprendre sa position d'omniprésent, de celui qui remplit toutes choses. Tous ses attributs, c'est ce qu'on va aller lire, quelques versets qui nous parlent de ses attributs, de ce Dieu-là. Mais les mêmes attributs s'adressent Dieu, le Père, Jésus ou le Saint-Esprit, les trois sont dans les mêmes attributs. C'est pour ça qu'on dit que l'exemple de l'œuf, c'est pas un bon exemple, parce que le jaune n'est pas comme le blanc, puis c'est pas comme la coquille non plus, tandis que Dieu, qui sont trois parfaitement égaux, pareils, dans les mêmes attributs. Ces quelques versets que nous allons regarder nous le représentent sur différents aspects. Nous découvrirons différentes choses intéressantes qui nous feront percevoir Dieu d'une manière plus grande à nos yeux. Parce que quand tu t'aperçois Dieu est ça, Dieu est ça, Dieu est ça, il va grandir à tes yeux, Dieu. Regardez bien ces passages-là, puis méditez là-dessus. Hébreux 3:12. Quelles caractéristiques qu'on voit de Dieu. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ça, c'est une caractéristique qui nous parle de Dieu. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant. Cette caractéristique-là s'adresse à Dieu le Père, au Saint-Esprit puis à Jésus. On fait affaire à un Dieu vivant. Écrivez Dieu vivant. Quelle autre caractéristique on va aller trouver de Dieu dans Psaume 99:9? Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Fait qu'une caractéristique qu'on vient de découvrir, c'est que Dieu est saint. Et quand lui, il ne peut pas y avoir de péché. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a résisté à toute tentation, puis il ne s'est pas livré à aucun péché. À cause de sa nature intérieure, de ce qui est saint, sa nature est « je refuse de rentrer dans un chemin de désobéissance à mon Père », puis il refusait de vivre une vie qui n'amenait pas toute la gloire à son Père. Fait qu'il était consacré à son Père. Il était pur, sans péché. C'est pour ça qu'il est appelé le Saint. Même le diable avait rendu témoignage à Jésus là-dessus. Quand que Jésus commence à prêcher dans une réunion, puis il y en a un qui était possédé d'un esprit de démon impur, puis il dit, « Qu'y a-t-il, Jésus de Nazareth? T'es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus s'est fait appeler Saint, même par un démon. Bien, la Bible nous le dit que Dieu est saint, puis Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint, Saint-Esprit, il est dans son nom, puis Dieu il est saint. Quelle autre caractéristique, Romains 16, 26? Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'ils obéissent à la foi. Quelle caractéristique qu'on dit de Dieu dans ce passage-là? Que Dieu est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, éternel? Qui a toujours existé. Qui va exister toujours. Qui n'a ni commencement, ni fin. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il est ressuscité dans l'Apocalypse? « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » J'étais mort, mais je vis maintenant au siècle des siècles. Jésus est éternel. C'est pour ça qu'on disait tantôt, et la parole était au commencement. Toutes choses ont été créées par elle, ça c'est Jésus. Bien, Jésus a créé toutes choses depuis le début, puis il est éternel. Dieu le Père est éternel, Jésus est éternel, puis le Saint-Esprit est éternel, parce que ça dit que le Saint-Esprit, il demeurera éternellement avec vous. Fait que le Saint-Esprit aussi, il est éternel. C'est la fin des temps terrestres, mais pas la fin de Dieu. Dieu finira jamais. Dieu n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais été créé. Il n'y a pas eu un autre Dieu pour créer Dieu. Lui, il était là avant toute chose. Puis toute chose était créée avant lui. Mais faut que tu pries, Seigneur, qu'il te le révèle par le Saint-Esprit, parce que l'humain ne peut pas comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Il faut que tu le demandes au Saint-Esprit de venir t'éclairer. Parce que c'est grave, là. C'est la base de notre foi.
Il y dès le commencement. Il l'a fait.
C'est ça.
On n'a pas cherché à savoir qui avait avant ou quoi. Il est le commencement de la parole de Dieu.
C'est ça.
Le
de la titre. Ça c'est ça. Ça fait partie.
On cherché au-delà de
on n'aura jamais de réponse là-dessus.
Non.
On va loin, mais qu'on soit à l'autre bord, on va dire, il est toujours été, il est là, puis il n'y a jamais de fin. Puis nous autres, on connaît, on a eu un commencement, puis on a une fin terrestre, mais il nous a donné la vie éternelle. Mais qu'on tombe l'autre bord, on va vivre éternellement l'éternité avec lui, puis l'Esprit Saint va demeurer éternellement en nous. On va être pleinement en pleine communion avec Dieu, le Dieu éternel, puis on va vivre une histoire éternelle avec lui, une histoire sans fin. 1 Jean 4, 8. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu? Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus était amour aussi. Jésus lui a montré son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça que Jésus a dit. Il a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Dieu a montré son amour en donnant son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui a montré son amour en envoyant Jésus. Jésus a montré son amour en donnant sa vie pour ses amis. Dieu y est amour. On achève. Luc 1, 49, une autre caractéristique qui est vraiment intéressante, puis je vous encourage à aller méditer l'étude, la refaire, réfléchir ces versets, puis comprendre ce qui est là. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Comment est-ce qu'il est appelé? Le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Tout-Puissant? Il n'y a pas plus fort que lui. Tout puissant, c'est qu'il peut tout faire. Puissant, là, c'est la puissance, une capacité. Il a toute capacité. Il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est parce que c'est celui qui me fortifie qui va nous rendre plus que vainqueurs. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu, à partir de rien, hein, il n'y avait rien, là. Il était juste présent en esprit. Il a créé tout le monde invisible, des milliards d'anges qui sont à son service, puis qu'il y a toute une histoire qui se déroulait dans le monde invisible. Puis après ça, il a tout créé, l'univers. Tu regardes ça dans l'espace, là. Il a donné un nom à chaque étoile que ça nous dit dans la Bible. Nous autres, ça nous paraît infini. Pour lui, tout est dans sa main. Il est encore plus grand que tout cela, puis tout est créé à l'intérieur de lui. Tout subsiste, tout se maintient en vie par lui.
Il ne nous manque pas de tout comprendre, il nous manque de croire.
C'est ça. Ça, c'est un bon point. Hein, Manon? Qu'est-ce qu'il a clairement dit, c'est un bon point. Il ne nous demande pas de tout comprendre. Il ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande de croire. Oui, parce que c'est par la foi qu'on saisit que la parole de Dieu a été créée par Dieu. C'est par la foi qu'on sait que la terre a été créée par Dieu. C'est par la foi qu'on croit qu'elle est sortie de l'eau puis qu'elle s'est séparée, comme ça dit, c'est dit au début de la création. C'est par la foi qu'on accepte ces révélations-là. Puis c'est le Saint-Esprit, à cause de notre foi, qui va nous les révéler. Fait que quand on parle de toute puissance, Dieu le Père est tout puissant parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Tu sais, on a vu tantôt que Jésus était auprès du Père puis que toutes choses étaient créées par lui. Puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il n'y a rien qui a été créé dans toute la création terrestre puis la création invisible qui a été créée sans que Jésus le crée. Jésus est le tout puissant. Quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été remis. » Il a réobtenu la toute-puissance qu'il avait. Il est le tout-puissant Jésus au même titre que Dieu le Père. Psaume 145, 17, une autre caractéristique. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans ses œuvres. Il y a deux caractéristiques là-dedans. Il est juste et il est miséricordieux. C'est bon à savoir. C'est ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, être juste? Il n'y a pas deux mesures. S'il a dit que c'était ça, il est juste, c'est exactement ça qui va arriver. Un exemple, quand il déclare dans la Bible qu'on est tous des pécheurs, c'est vrai, on est tous des pécheurs, qu'on est tous condamnés à cause d'Adam et Ève, puis ensemble, tout le monde a fait par-dessus notre tête des péchés, des ubis. Si la Bible nous le déclare, puis s'il dit qu'il ne laissera point impuni le coupable, puis s'il dit qu'il y a un étang de feu qui est préparé pour la perdition de ceux qui meurent dans le péché, il fera pas de passe droit à côté puis dire « Ah, ben toi, je te laisse une autre chance, tu n'as pas accepté mon plan de salut que je t'offrais, je te laisse une autre chance, je vais sauver quand même du monde parce que je le décide à la dernière minute. » Non, Dieu, il est juste. S'il établit qu'un plan se déroulera comme ça, il n'y a pas deux plans, il n'y en a rien qu'un. Il a décidé d'accorder sa miséricorde, c'est ça que le deuxième mot, il a décidé de pardonner à ceux qui mettraient leur foi en son Fils. Ça veut dire que dans sa justice, il n'aura pas laissé impunis les coupables. Puis dans sa miséricorde de son amour et son pardon, il a décidé de payer, de s'arranger que ça soit payé la mort, puis que ça s'est fait par Jésus, puis il a dit que tous ceux qui passeraient par lui, je leur donnerai d'oublier tout le péché. C'est ça la miséricorde. On ne peut pas séparer la miséricorde avec la justice. Puis dire, oh ben Dieu est tellement miséricorde qu'il va pardonner tout le monde sans qu'il passe par le chemin du salut. Non, parce que Dieu est aussi juste. Autant que Dieu est juste, autant que Dieu est capable de pardonner, mais il a donné une règle comment est-ce que le pardon sera donné, puis elle va être respectée, puis il n'y aura pas de passe droit. Si tu veux être pardonné, si tu veux faire partie des disciples pour la vie éternelle, il faut que tu passes par le Fils, c'est le seul moyen. 1 Roi 8. Il est juste et miséricordieux dans ce qu'on vient de voir. 1 Roi 8. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ça veut dire quoi?
La grandeur.
Puis ça dit que tout ce qui est créé de matériel, c'est pas assez grand pour contenir Dieu, parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Puis un autre verset, ça nous dit, toutes choses ont été créées en lui. Ça veut dire que Dieu est encore plus grand que toute la création qu'on voit. Ça fait juste le creux de sa main, puis il n'y a même pas la main pleine. Dieu, là, on s'imagine, oh, tu vois, ça, vous allez au bord, je vais y parler dans le casque. Mais qu'on voit Dieu de nos yeux, là, tout genou va fléchir. Puis toute langue va confesser que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, on fait notre frais parce qu'on s'imagine Dieu comme une statue, là, on le voit à bras de notre grandeur. L'univers à l'infini, à notre Dieu, à nos yeux, Dieu est encore plus grand que tout ça. Fait que même qu'on le voit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Attendez-vous de faire un petit moment de faiblesse sur le coup. On tombe nous autres avec, puis on est déjà en train de tomber à genoux devant lui, puis on n'est pas gêné. On a accepté sa royauté, puis on veut le servir. Mais il est grand, le Dieu qui nous a créés. Ça nous explique son omniprésence. C'est qu'il est présent partout, toute chose est créée en lui, puis il est encore plus grand, il est omniprésent. Deux Corinthiens 1:18, une autre caractéristique. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Dieu, il est fidèle. Si Dieu, il promet quelque chose, il va l'accomplir exactement comme qu'il l'a promis. Sinon, ça, il serait infidèle. Infidèle, c'est un péché. La fidélité, Dieu est fidèle avec lui-même. Il peut pas jurer par un plus grand que lui. Il est Dieu, puis son oui est oui. Son non est non. Puis il est fidèle à ce qu'il a dit dans sa parole, puis il n'y a rien de ce qui va passer dans sa parole sans que ça s'accomplisse. Fait que si c'est là, la ligne est tracée, c'est immuable. Ça ne changera pas. Il est fidèle. Puis s'il t'a promis d'être avec toi, comme c'est écrit dans plusieurs passages, qui sera avec nous, Dieu est fidèle, puis il va prendre soin de vous. Psaume 33:13. L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l'homme. Quelle caractéristique qu'on comprend? Dieu voit tout. Il est omniprésent, et en même temps, on sait qu'il sait tout. S'il voit, il sait. Il est omniscient. C'est qu'il sait toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends ces jours, tu vois là. Si je prends les ailes comme l'aurore, là aussi ta droite me conduira. Si je me dis, oh, la lumière, que les ténèbres vont me couvrir, la noirceur, mais il dit même, il n'y a pas d'endroit où tu peux te cacher de Dieu, il voit tout, il sait tout. Il est partout en même temps. Ouais. Omnipotent, c'est toute puissance. Omniscient, il sait toutes choses. Omniprésent, il est présent partout en même temps. Autant que nous autres, on est ici, là, en train de louer le Seigneur, il est présent en nous, il est là. Puis l'autre qui vit en Chine, à l'autre bord de la planète, puis il est en train de louer le Seigneur est présent dans lui, il est partout en même temps. Il est capable d'entendre toutes les prières de ses enfants, puis de répondre. Potent. Potent, c'est à toute puissance. On l'a vu tout à l'heure qu'il est à tout puissant. Puis il est éternel. 1 Corinthiens 10-26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Dieu, il est le propriétaire de tout. Même le diable, il est en vie, là. Puis Dieu, il est le propriétaire de la vie du diable. C'est Dieu qui va décider où ce que le diable va aller. C'est pas le diable qui décide où ce qu'il va aller. Un jour, le diable va être chez dans les temps de feu, puis la Bible est claire là-dessus que les temps de feu étaient créés pour le diable et pour ses anges. C'est Dieu qui décide de faire ce qu'il veut avec ce diable-là, puis il va le jeter avec ses démons dans les temps de feu qui est très préparé pour le diable et pour ses anges.
Amen.
Un jour, ça va s'accomplir, puis c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand on a des problèmes sur la terre, puis des fois, on dit que le royaume de ce monde était donné au diable, puis le diable règne sur l'humanité. Mais les biens de ce monde n'appartiennent pas au diable, n'appartiennent à nul autre qu'à Dieu, qui est le propriétaire de tout, parce que c'est lui qui a tout créé. Le diable, tout ce qu'il a, c'est la gloire des royaumes. Les gens ont décidé de donner une gloire à ce diable-là. C'est tout ce qu'il a. Ça va y être enlevé, sa gloire, son trip de gloire dans pas long. Tout ce qui est là appartient à Dieu. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Puis Jésus a dit à ses disciples, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il y a un jour où ceux qui ont appris à vivre pour le Seigneur, à se donner pour l'œuvre de Dieu, en étant débonnaires, ils vont hériter de la terre. Tout ce qui est au Seigneur va nous être donné. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un autre passage qui nous dit, tout est à vous. Soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. On est co-héritier avec Christ. Alléluia. 1 Samuel 2-3. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Alors, on a vu qu'il voit tout, mais ici, c'est dit qu'il sait tout. Il est omniscient. Et par lui sont pesées toutes les actions. Il n'y a rien que tu peux cacher à Dieu. Depuis que tu es au monde, ton premier respire, il pourra te dire combien tu as eu de cheveux sur la tête dans toute ta vie. Si t'en tombe un cheveu de ta tête, il sait, ils sont tous comptés à mesure que tu vis. Il sait le nombre de battements de ton cœur. Et si chaque atome qui forme ton être tout entier... Puis c'est lui qui maintient toute ta vie en existence. Puis tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as eu comme émotion, comme sentiment, comme réaction, comme agissement, les bonnes comme les mauvaises, il sait tout. On peut rien cacher. Là, ceux qui font des péchés, puis se dire, ben là, je le dirai pas, fait que pas que le Dieu sache. Dieu a tout vu, puis il sait tout. On peut rien lui cacher. C'est pour ça qu'il est important de faire la paix avec lui par le moyen de croire que Jésus a tout payé, puis on demande pardon, puis on se repent pour nos fautes, puis on lui demande de nous purifier par le sang de Jésus, afin que rien reste sur notre âme qui mette une séparation. C'est un Dieu qui sait tout. Le dernier verset, pour cette petite étude, une autre caractéristique, 1 Jean 1-5, La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Puis si on regarde le passage, où est-ce que c'est écrit ça, si on lit un petit peu avant, un petit peu après, c'est dans ce passage-là que ça nous dit de confesser, de croire au sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Pour qu'on garde notre contact avec ce Dieu de lumière-là, faut que tu marches dans la lumière. Faut que tu marches à jour. Faut que tu mettes à jour tes péchés et tu lui confesses. Tu peux pas penser qu'il sait pas. Il sait tout. Il a tout vu. Il a tout. Il est là. Il est témoin de tout ce que tu fais. Puis en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Puis il n'est pas intéressant d'en avoir de ténèbres. La seule chose qu'il a dit dans sa miséricorde, c'est qu'il ne se souviendra plus de tes péchés et de tes iniquités, parce qu'il décidera de les oublier. Pas parce qu'il a la mémoire trop courte et il fait de l'Alzheimer. C'est parce qu'il va jeter tes péchés dans la mer de l'oubli, qui est un symbole pour dire qu'il décide de ne pas en tenir compte. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Il les efface. Il efface parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour cet effacement-là. C'était ça le l'œuvre de justice de Dieu. Qu'on passe par la foi à croire que Jésus a tout accompli. On se repent en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel. On s'engage à le suivre, à le servir. Pour demeurer dans cette communion-là avec ce Dieu de lumière. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Puis je vous conseille, c'est pas un ordre, c'est un conseil, d'aller relire ça, d'y réfléchir, d'y apprendre, de méditer pour essayer de découvrir qu'est-ce que j'apprends sur Dieu pour revenir dans Jean qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. » Mais tout ça, c'était comme donner des petits aperçus qu'on apprend à le connaître.